Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. La situation des réfugiés maliens, nous en parlons une fois de plus dans votre émission Le Grand Dialogue. Eh bien, pourquoi ? Parce que la question se retrouve au devant de l'actualité depuis mardi dernier, après la publication d'un communiqué conjoint par HCR, un communiqué qui est un véritable avertissement, puisqu'il annonce que plus de 31 000 réfugiés maliens au Burkina Faso sont en situation d'insécurité alimentaire. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine d'une telle situation ? Qu'est-il faire pour sortir de cette mauvaise passe? Qu'envisagent les PAM et les HCR? Comment doivent réagir les autorités maliennes à cette situation? Comment se présente d'une manière générale la situation des réfugiés maliens au Burkina Faso et en Mauritanie? À quand leur retour au Bercail? Ce sont entre autres les questions qu'inspire le communiqué conjoint PAM-HCR. Des questions que nous allons adresser à nos invités qui sont Mohamed El Mokhtar. Il est donc réfugié malien au Burkina Faso. Il sera en ligne. Il est déjà, je crois bien, Betty Akado, il est ici présent dans ce studio, il est de la société civile. Ousmane Famagan Kounaté est chercheur en droit public, il est doctorant à l'Institut de recherche et de formation appliquée. Nous avons Madame Mawa Paroms, elle est la représentante adjointe du HCR au Burkina Faso. Elle est donc en ligne, ce départ vous est présenté par Seydou Fomba.
Le grand dialogue.
Auditrices, auditeurs, bienvenue donc. Première partie de ce débat, réfugiés maliens, situation en général. Première question, combien de camps de réfugiés maliens existent-ils à la date d'aujourd'hui? Je crois que nous allons poser la question en premier lieu à Madame Mahoua Paroms. Elle est la représentante adjointe du HCR au Burkina Faso. Elle est bien en ligne. Bonsoir, Madame.
Oui, bonsoir, monsieur.
Voilà. La première question, c'est par rapport donc au nombre de camps de réfugiés. Au Burkina Faso, il y en a combien, les réfugiés, les camps de réfugiés maliens?
Nous avons deux camps de réfugiés maliens dans la région du Sahel au Burkina Faso. Il s'agit du camp de Goudebo, qui se trouve à 15 km de la ville de Dori, 150 km de la frontière malienne, et le camp de Mentao, qui est également à 15 km de la ville de Dibo, à 130 km de la frontière malienne.
Alors, dites-nous, madame, combien de réfugiés abritent ces deux camps?
Alors, dans le camp de Goudebo, vous avez 10 459 personnes. À Mentao, 13 329 personnes. Il faut aussi compter qu'il y a des réfugiés qui sont installés en dehors des camps, et qui sont au nombre de 8 313 personnes à ce jour.
Alors, vous allez donc garder la ligne. Nous allons vous retrouver au cours de ce débat. À présent, nous allons tenter d'avoir Mohamed El Mokhtar. Mohamed El Mokhtar, qui est donc réfugié malien au Burkina Faso. Mohamed El Mokhtar, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà. Dites-nous, vous êtes donc un réfugié malien là-bas au Burkina Faso. Et parlez-nous maintenant des conditions de vie de ces réfugiés, de vous-même là-bas sur place.
Ok, les réfugiés ici, je parlerai surtout des sites qui sont à Mentao, au milieu de quelques minutes, c'est-à-dire le site de Mentao à Dibo. Bon, les conditions ne sont pas tellement ce qu'on aurait souhaité par rapport aux autres années. Bien sûr, elles diminuent au fur et à mesure. Et ça, on le comprend très bien. Il y a un manque de moyens des partenaires qui est dû à d'autres crises qui sont peut-être plus importantes et plus urgentes que la nôtre, qui commence vraiment à prendre du temps depuis 4 ans. Et on ne voit plus l'intérêt vraiment de mettre les fonds là où peut-être on peut trouver des solutions. Et nos conditions aujourd'hui sont surtout dues, côté assistance alimentaire, et puis éducation, santé. C'est à peu près réduit à 50% par rapport aux années précédentes, 2015-2014.
Alors, Mohamed El Mokhtar.
L'assistance alimentaire, quand même, elle est toujours.
Allez-y,
El Mokhtar. L'assistance alimentaire, quand même, elle n'a pas varié par rapport aux autres années, seulement il y a eu une tâche qui a disparu depuis 2016. Sinon, tout le reste, ça va.
Vous voulez donc dire qu'au fil des ans, votre situation là-bas en tant que réfugié a sensiblement dégradé, c'est cela?
Elle a diminué, oui, à cause du manque des moyens. Mm-hmm. Et ça, c'est compréhensible.
Mm-hmm. Alors, nous allons vous retrouver un peu plus tard, le temps de retourner dans ce studio pour donner la parole au représentant de la société civile, qui est donc Agado, Sbeti Agado. Alors, vous venez d'entendre d'abord madame la représentante adjointe du ICR au Burkina Faso, ensuite un réfugié en la personne de Mohamed El Mokhtar. Alors, qu'est-ce que cela vous dit, les propos que vous venez d'entendre, la situation qui se dégrade là-bas pour les réfugiés maliens?
Bien, merci de m'avoir donné la parole sur un sujet qui préoccupe quand même l'ensemble des Maliens, parce que ce sont quand même des Maliens qui sont en dehors du territoire, et il est quelque part, il est gênant de voir que depuis 4 ans, ils sont considérés comme des réfugiés, au moment où leurs concitoyens sont à l'intérieur du pays et certainement ne subissent pas moins de problèmes qu'eux, n'est-ce pas? Donc cette situation nous écœure à plus d'un titre. Et si vous nous demandez de nous prononcer là-dessus, nous dirons tout simplement qu'il est grand temps que cette situation s'arrête, parce que rien ne justifie aujourd'hui le maintien de plus de 10 000, 20 000, 30 000 réfugiés, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Un pays avec lequel le Mali a de très bons rapports, un pays que les Maliens traversent de long en large, tout comme les Burkinabés traversent le Mali de long en large sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Il est grand temps qu'on crée un minimum de conditions pour que ces réfugiés-là rentrent. Et je pense que s'ils ont un cri de cœur à lancer, ce n'est pas seulement en direction de la communauté internationale ou du gouvernement du Mali. Ils ont un cri à lancer à l'adresse des groupes, n'est-ce pas, armés, qui sont à l'origine, n'est-ce pas, de leur situation de détresse. Pour que, en fait, moi je suis sûr qu'ils sont plus à l'écoute. Ils sont plus à l'écoute de ces groupes armés qui sont sur le territoire du Mali, qu'ils ont une oreille plus attentive à ces groupes-là qu'au gouvernement du Mali. Alors qu'il est bon qu'ils disent, qu'ils annoncent réellement leur détresse d'abord à leurs frères, n'est-ce pas, qui continuent de garder des armes et qui continuent de perturber, n'est-ce pas, la sécurité des paisibles citoyens maliens.
Alors, nous avons ici dans ce studio Ousmane Famagan Konaté, il est chercheur en droit public et doctorat à l'Institut de recherche et de formation appliquée. Ousmane Famagan Konaté, vous avez donc entendu les uns et les autres, à commencer par la représentante adjointe du ICR au Burkina Faso. Alors, dites-nous, vous, homme de droit, les réfugiés ont-ils des droits?
Alors, je vous remercie de m'avoir invité sur une question aussi sensible qui est la situation des réfugiés. Alors, pour un juriste, parler de la situation des réfugiés revient à parler du statut des réfugiés. Parce que, comme nous le savons, le statut des réfugiés est indissociable de la question du droit d'asile, n'est-ce pas? Donc, il y a la convention de 1951 qui parle du statut des réfugiés. Et cette convention de 1951 demande aux États qui accueillent les réfugiés, à défaut de garantir positivement un accueil à ces réfugiés, de leur accorder quand même un droit de séjour. Bon, en vertu de ce droit de séjour, ils bénéficient particulièrement de certains droits qui leur permettent de mieux vivre. Bon, en cela, on peut quand même parler d'un instrument qui est là, qui permet simplement aux États qui s'engagent à accorder aux réfugiés un traitement égal à celui dont bénéficient les nationaux et de les dériver des titres et certaines sécurités. Donc,
alors, nous reviendrons un peu plus tard à vous. Le temps de repartir au Burkina Faso où se trouve donc Madame Mahoua Paroms. Elle est la représentante adjointe du ICR au Burkina Faso. Alors, dites-nous, Madame, c'est vrai qu'il y a eu ce communiqué conjoint PAM ICR. Nous en parlerons un peu plus tard. Mais vous venez d'entendre un réfugié qui est donc sur place là-bas qui parle de détérioration de la situation. Alors, qu'est-ce que vous avez comme commentaire après avoir entendu ces propos?
Bon, ce réfugié a dit la situation comme elle se présente. Effectivement, lorsque les réfugiés arrivent pendant l'urgence, l'assistance n'est pas forcément la même que lorsque la situation devient une situation d'asile prolongée. Donc, c'est normal qu'une fois que l'assistance diminue, les réfugiés commencent à s'inquiéter. C'est tout à fait humain, je le comprends. Le Haut Commissariat aux réfugiés est donc une agence humanitaire, c'est l'agence des Nations Unies qui s'occupe de la protection des réfugiés, qui cherche des solutions à leur situation et qui les assiste. Et nous ne le faisons pas seuls, nous le faisons avec, ici au Burkina, bien entendu, l'État burkinabé, parce que c'est d'abord cet État-là qui a donné la vie aux réfugiés. Et donc, nous ne faisons que aider le gouvernement à assister les réfugiés et à les protéger. Et dans ce cadre-là, jusqu'à présent, nous avons vraiment fait de notre mieux pour que la situation des réfugiés soit confortable. Maintenant, comme vous le savez, il y a beaucoup de crises dans le monde et les pays donateurs qui donnent pour la crise malienne sont les mêmes qui donnent pour d'autres crises ces donateurs sont tiraillés un peu de partout. Et c'est normal donc que l'assistance n'est plus comme au début de la crise. Donc je reviens simplement à reconnaître ce que ce réfugié a dit est vrai. Ce que nous donnons aujourd'hui n'est pas forcément ce qui était donné lorsqu'ils sont arrivés. Mais le HCR a continué à donner la protection de la même manière que nous l'avons fait au début de la crise. Et cette protection, elle est très importante parce que sans la protection, les réfugiés ne peuvent même pas exister ici. Ils n'ont pas d'existence légale. Il faut qu'ils aient des documents. Il faut qu'on puisse les aider lorsqu'ils ont besoin de voyager, par exemple, de se déplacer. Ils ont besoin aussi d'aller à l'école, les enfants. C'est le HCR qui le fait. Ils ont besoin d'abri. Ils ont besoin, bien entendu, d'une formation professionnelle, d'activité génératrice de revenus. Et tout ça, c'est nous qui le donnons avec nos partenaires. Alors, bien entendu, l'assistance alimentaire a un peu diminué par rapport à 2012, mais ce que je viens de vous citer comme assistance et protection n'a pas changé.
Alors, il sera 18h30. Dans moins d'une minute, nous allons observer une courte pause avant de poursuivre ce débat.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La situation des réfugiés maliens, c'est donc le sujet du jour. Nous en parlons avec quatre invités, à commencer par Madame Mahoua Paroms. Elle est la représentante adjointe du ICR au Burkina Faso. Elle est en ligne. Nous avons ici présent dans ce studio Sbeti Ag Akado. Il est la société civile. Ousmane Famagan Konaté, chercheur en droit public, doctorat à l'Institut de recherche et de formation appliquée et un réfugié en ligne, un réfugié qui se trouve donc sur place là-bas au Burkina Faso. Il s'appelle Mohamed El Mokhtar. C'est à lui que nous allons d'ailleurs nous adresser. Et Mohamed El Mokhtar, dites-nous, on a appris quand même que suite à ce qui se passe là-bas, maintenant la détérioration de la situation, il y a eu des mouvements, il y a eu donc des gens qui ont quitté. Vous êtes au courant de cela? Dites-là, la situation qui se présente actuellement là-bas au camp où vous vous trouvez, est-ce qu'il y a eu des départs suite à cette situation? Des départs des camps, oui.
Comme dans tous les camps qui sont au Burkina, il y a eu des départs, effectivement. Il y a eu ce qu'on appelle le rapatriement facilité. C'est une option que nous a donnée les SPR et ses partenaires à un moment où les gens partaient spontanément et puis ils rencontraient des difficultés chez eux. Donc maintenant, le SPR a opté pour le rapatriement facilité. Ça, c'est depuis, je crois que ça a commencé en 2015. Donc, ces départs facilités ont été une opportunité pour certains qui en ont profité parce qu'ils étaient déjà sur le point de partir. Et il y a eu à peu près, à ma connaissance, au niveau de Mentao, à peu près déjà 3 départs de décembre 2015 à maintenant. 3 groupes de réfugiés qui sont retenus au bercail, comme on dit. Voilà, c'est ça, j'ai une connaissance. C'est de ça que j'ai connaissance.
Ouais, cela est compris, Madame Hawa Parom, c'est justement en ligne. Je rappelle qu'elle est la représentante adjointe du ICR au Burkina Faso. Et Madame, au niveau des deux camps au Burkina Faso, des deux camps de réfugiés, est-ce qu'il y a eu beaucoup de départs récemment?
Ce que je peux vous dire, c'est que depuis le début de cette année, nous avons enregistré 446 départs, mais nous avons à peu près 2000 réfugiés, 1189 du côté de Goudebo, 1176 du côté de Mentao, qui seraient intéressés à partir et que nous avons commencé à interviewer pour nous assurer du caractère volontaire de leur départ.
Alors, comment ces départs sont organisés en général?
Ces départs sont organisés de façon très transparente parce que nous mettons l'accent sur le fait que pour le moment, nous ne pouvons pas encore organiser des rapatriements comme on le fait d'habitude lorsque les conditions sont pleinement réunies pour un retour organisé. Donc, en ce moment-ci, comme l'a dit votre interlocuteur précédent, nous avons donc opté avec nos partenaires qui sont signataires de l'accord tripartite entre le HCR, le gouvernement du Mali et celui du Burkina Faso, donc, nous avons opté pour le rapatriement facilité. Dans ce cadre-là, les réfugiés, de façon individuelle, nous approchent pour dire qu'ils veulent rentrer. En fait, ils approchent même la CONAREF, qui est la Commission nationale pour les réfugiés, donc l'entité burkinabé qui s'occupe donc de gérer le camp de Goudebo et celui de Mentao. Ils se manifestent. Une fois qu'ils se sont manifestés, cette liste est compilée, amenée au HCR, et nous devons faire maintenant une vérification. Nous contactons donc les réfugiés de façon individuelle pour être sûr qu'ils ont fait une décision en toute connaissance de cause. Ils nous disent que oui, on est vraiment toujours prêt à partir. Ils nous donnent leur lieu de retour. Et nous allons vers nos collègues du Mali pour nous assurer que l'endroit où le réfugié veut rentrer peut être un endroit acceptable pour un retour. Une fois que nous avons le feedback donc, de nos collègues, nous retournons vers les réfugiés pour leur donner toutes les informations que nous avons reçues de nos collègues du Mali. Donc, ils sont informés sur la situation qui prévaut dans le lieu de retour. Nous les informons également sur les dangers des mines, parce qu'on ne sait jamais les routes qu'ils vont prendre et tout, et on leur demande de faire vraiment attention. On leur donne tous les conseils qu'on peut leur donner pour que leur protection soit minimale, maximale. Et puis, par la suite, on leur donne l'occasion de remplir un formulaire qu'ils signent pour être sûr que le caractère volontaire est confirmé. Une fois que cela est fait, rien ne nous empêche donc de les assister en leur donnant donc de l'argent, 35 000 par personne, pour pouvoir retourner en toute dignité vers leur pays d'origine, qui est le Mali.
Alors, Madame, nous allons vous retrouver très bientôt. Nous retournons dans ce studio pour donner la parole à vous, Sbeti Ag Akado de la société civile. Alors, nous en venons à présent donc au communiqué conjoint du PAM et du HCR. Alors, le PAM et l'HCR qui ont donc donné l'alerte. Plus de 30 000 Maliens et réfugiés sont en situation d'insécurité alimentaire. Ag Akado, cela vous fait-il peur, hein, le contenu de ce communiqué?
Moi, d'abord, ce communiqué suscite un autre questionnement. Quand on sait que les réfugiés, ce n'est pas seulement au Burkina, il y en a en Mauritanie, il y en a en Algérie, il y en a un peu au Niger. Pourquoi, tout d'un coup, c'est la situation des réfugiés au Burkina et se présente sous un signe alarmant par rapport aux autres? On a besoin de comprendre pourquoi au Burkina c'est plus alarmant qu'en Mauritanie ou au Niger ou ailleurs. C'est quand même une question de compréhension. On a besoin de comprendre à ce niveau. Ensuite, comme la représentante du HCR l'a si bien dit, moi je pense qu'il y a beaucoup de conditions qui aujourd'hui facilitent le retour des réfugiés qui le désirent, n'est-ce pas? Il y a tellement de situations favorables. Il y en a qui peuvent le faire volontairement, ils ne craignent absolument rien du tout. Il y a d'autres qui peuvent s'appuyer sur ces organismes-là, n'est-ce pas, pour qu'ils leur facilitent leur retour. Mais ce qui est, de notre point de vue, un peu inquiétant, c'est que cette situation des réfugiés a tendance à devenir un job, n'est-ce pas, dans lequel il y a certaines personnes qui persistent à rester pour mieux bénéficier d'un certain nombre de traitements. Et cela m'amène à regarder un peu du côté de la Mauritanie, que je connais très bien, où je sais que dans les camps des réfugiés là-bas, les gens s'organisent et il y a énormément d'éléments qui sortent des camps pour venir, n'est-ce pas, exécuter des tâches, des basses besognes, n'est-ce pas, dans une partie des régions ouest de Tombouctou, et qui ravitaillent régulièrement dans les camps de réfugiés là. Cela nous amène à poser la question, est-ce que c'est parce que ceux qui sont au Burkina ne sont pas ravitaillés de la même manière que ça crie de toutes parts? En tout cas, ceux de la Mauritanie sont calmes, ils ne sont pas en train de dire quelque chose. Parce que, en tout cas, de notre point de vue, c'est parce que peut-être qu'ils ont plus de retombées, n'est-ce pas, de leur position, de leur organisation, plus que ceux du Burkina, surtout quand on sait que le Burkina quand même a changé de cap depuis un certain temps. Du temps de Blaise, c'était peut-être plus facile à eux de se mouvoir ou bien d'obtenir un certain nombre de traitements, mais avec les autorités actuelles, on se méfie un peu de cette situation floue autour de la question des réfugiés, parce que, encore une fois, je le dis, les réfugiés du Mali, où qu'ils soient aujourd'hui, ont des facilités à rentrer chez eux, même si, quelque part, ils hésitent, parce que quand ils regardent la situation des déplacés, la situation de leurs autres frères qui sont à l'intérieur du pays, il y a de quoi hésiter à rentrer. Parce que quand on sait que la plupart des déplacés dans la zone de Tombouctou, par exemple, sont des laissés pour compte, ils ne bénéficient d'aucune assistance, donc il y a de quoi hésiter. Il y a de quoi réfléchir beaucoup avant de prendre le courage et rentrer au pays.
Ousmane Famagan Konaté, vous qui êtes donc chercheur en droit public, 31 000 réfugiés maliens en situation d'insécurité là-bas au Burkina Faso. Alors, quel commentaire?
Alors, toujours du point de vue de la Convention de 1951, alors les États doivent mettre les réfugiés en sécurité, n'est-ce pas? Et partant de là, ils doivent assurer les conditions favorables de sécurité à ces réfugiés. Alors, je vais rebondir sur le fait que certains réfugiés, avec l'accompagnement du HCR, décident de retourner pour un peu évoquer le principe du non-refoulement. Mmh. Pour dire que ces réfugiés, une fois qu'ils bénéficient du statut de réfugié, quand même, ne peuvent pas faire l'objet de refoulement là, par de l'état d'accueil. En fait, il y a un article 33 de la Convention de 1951 qui précise qu'aucun État n'expulsera ou ne refoulera de quelque manière que soit un réfugié. Donc les réfugiés doivent bénéficier des conditions de sécurité et lorsqu'ils désirent rentrer, ils doivent bénéficier de l'accompagnement du HR, n'est-ce pas? Donc, si c'est...
Alors, nous nous rendons une fois de plus au Burkina Faso pour retrouver Mme Mawa Paroms, représentante adjointe du ICR sur place là-bas. Alors, dites-nous, Madame, c'est l'UPAM et vous, les ICR, qui ont donc donné l'alerte en annonçant que plus de 30 000, précisément 31 000 Maliens réfugiés sont en situation d'insécurité alimentaire. À quoi serait due cette situation, Madame?
La situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, est liée au fait qu'il y a une insuffisance de financement. Le PAM a été à nos côtés depuis le début de cette crise. Hein. Ils nous ont beaucoup aidés, ils ont beaucoup aidé les réfugiés. Malheureusement, il se trouve que la situation est en train de durer peut-être plus que prévu. Et le financement commence à faire défaut. Ce n'est pas lié à une cause quelconque politique ou quoi, c'est juste lié à une insuffisance financière. Et on ne peut pas dire autrement que vous avez un de vos invités qui a dit tout à l'heure qu'il se posait la question de savoir pourquoi cette situation se pose au Burkina et pas, par exemple, dans les autres pays qui ont reçu des réfugiés maliens. Je peux vous dire que la problématique est partout la même. La différence, c'est que les réfugiés ici au Burkina sont en majorité dans les camps et donc ça les rend plus vulnérables. Si vous prenez le cas, par exemple, des réfugiés qui sont au Niger, où il y a beaucoup plus d'espace, les réfugiés ont été, pas toujours, mais pour certains, pour la grande majorité, installés en dehors des camps. Donc, ils ne sont pas aussi vulnérables que ceux qui sont dans les camps, parce qu'ils arrivent à se débrouiller et à avoir une certaine autosuffisance alimentaire. Ici, la problématique est préoccupante, parce que nous sommes dans une situation où la majorité de nos réfugiés sont dans les camps. Alors, lorsque nous savons qu'à partir du mois de juillet 2016, l'assistance ne se fera plus, selon ce que nous a dit en tout cas le PAM, sur la base du statut, mais sur la base de la vulnérabilité, effectivement, nous sommes inquiets et c'est la raison pour laquelle ce communiqué a été fait. Pour qu'on puisse atteindre le maximum de donateurs, que les gens sachent ce qui est en train de se passer et qu'on n'arrive pas à un point de non-retour, qu'on puisse anticiper avant que la situation ne puisse devenir difficile pour les réfugiés. C'est la raison pour laquelle ce communiqué a été fait.
Alors justement, madame, est-ce que sur ce plan, vous êtes optimiste? Vous pensez qu'il n'y aura pas de crise alimentaire dans les camps?
Écoutez, nous sommes préoccupés, c'est vrai, mais en même temps, j'avais parlé tout à l'heure du fait que les réfugiés qui ont été accueillis si généreusement par le Burkina Faso ne sont pas seulement sur le dos, je dirais, du HCR. Il y a le gouvernement burkinabé qui se sent également préoccupé et qui a pris aussi, au même temps que nous, le problème à bras le corps. Par exemple, nous avons eu une donation du comité d'urgence qui s'appelle CONASUR, qui existe ici et qui a donné des vivres aux réfugiés qui ont été distribués en février pour venir nous aider à les prendre en charge. Nous avons aussi des donateurs qui sont un peu plus, moins visibles en tout cas, qui ont aussi donné et qui sont prêts à continuer à donner à manger aux réfugiés. Donc, la situation, elle est peut-être préoccupante, mais elle n'est pas désespérée. Et nous espérons que, avec l'intérêt qu'a suscité ce communiqué, nous pourrons peut-être sortir la tête haute de cette situation et éviter que les enfants réfugiés, les femmes, les personnes vulnérables qui sont dans les camps souffrent dans les mois qui viennent de la situation que nous avons dénoncée dans le communiqué.
Studio Tamani 18h45, la suite de ce débat dans un instant.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
La situation des réfugiés maliens avec quatre invités, Madame Mawa Parom, représentante adjointe du HCR au Burkina Faso, Mohamed El Mokhtar, réfugié malien au Burkina Faso, Betty Ag Akado. Dans ce studio, il représente la société civile et Ousmane Famagan Konaté, chercheur en droit public, doctorant à l'Institut de recherche et de formation. Nous retournons au Burkina pour retrouver cette fois-ci Mohamed El Mokhtar. Mohamed El Mokhtar, vous l'avez entendu, on dit que plus de 30 000, précisons, 31 000 réfugiés maliens sont en situation d'insécurité alimentaire. Vous l'avez appris là-bas, sur place. Alors, qu'est-ce que cela suscite comme commentaire entre vous là-bas, en tant que réfugiés?
Oui, effectivement, on a vu ce communiqué. On est très heureux que les HCR aient pensé à ça à temps. Parce qu'effectivement, comme l'a dit la représentante du HCR, la situation est préoccupante, mais n'est pas désespérée.
Alors aussi, quand vous avez appris... Allez-y. El Mokhtar, allez-y.
Quand on avait vu le communiqué, je disais que ça nous a beaucoup plu, parce que ça va au moins peut-être aider nos partenaires, aider les HCR à améliorer peut-être les conditions de vie des réfugiés au niveau du Burkina. Mm-hmm. Maintenant, je voulais revenir sur les propos de Assibi, mm-hmm. Akado, que je connais très bien d'ailleurs.
Allez-y.
Je le connais aussi. Qui disait que pourquoi est-ce que c'est le Burkina, c'est uniquement les HCR Burkina seulement qui fait. Qui crie au CS par rapport à la Mauritanie et au Niger. Et comme l'a si bien expliqué Madame la représentante du HCR, non, on n'est pas la même chose avec ces réfugiés de la Mauritanie ni du Niger, qui vivent souvent dans des grands espaces. Nous, on est confinés dans des camps. Et notre situation est liée uniquement à ce que ces réfugiés reçoivent. C'est-à-dire l'assistance alimentaire, les autres besoins, tout est ici dans le camp. Personne ne va ailleurs pour chercher quoi que ce soit et personne n'est aidé de l'extérieur. Comme il expliquait que souvent les Mauritaniens venaient se ravitailler, et ça je crois que c'est des affirmations sur lesquelles moi je ne peux pas m'étendre, parce que je ne sais pas si c'est sûr ou pas, ou c'est même vrai ou pas. Nous, en ce qui nous concerne, à part les moyens dont dispose les HCR, on n'a pas d'autres ressources qui viennent vers les réfugiés, à part celle-ci. Donc on est très heureux de l'apprendre et on est très heureux aussi qu'on réponde à ces cris de cœur de nos partenaires.
Donc c'est un communiqué qui ne vous a pas du tout fait peur.
Au contraire, comment ça va nous faire peur? Puisque d'autant plus que c'est à notre faveur si on répondait bien. D'ailleurs, j'ai trouvé même des montants réclamés très inférieurs, même peut-être au Belize. Après, j'ai entendu que c'était 2 millions de dollars. Et c'était vraiment pas tellement exorbitant pour les bailleurs ou bien pour les donateurs.
Alors, nous vous retrouverons très bientôt. Nous retournons dans ce studio. Dites-nous, Betty Ag Agado, un peu plus de 2 millions de dollars pour essayer de sauver la situation. Alors, c'est quand même un montant qui n'est pas aussi que ça, non?
Oui, évidemment, c'est quand même une somme dérisoire, compte tenu de tout ce qui est en train d'être dilapidé, n'est-ce pas, dans des situations peut-être moins difficile. Je rebondis juste sur les propos de Mohamed El Mokhtar. Je ne savais pas exactement qui c'était, mais quand il annonce qu'il me connaît, je pense que maintenant je le vois aussi. C'est certainement Akhado. Et si c'est lui, Je lui dirais tout simplement que je suis très très favorable à sa posture, n'est-ce pas, qui vise à soutenir, à aider, à organiser, n'est-ce pas, ses frères maliens au niveau du Burkina là-bas. C'est une très bonne chose. Mais dans le même temps, je pense que au jour d'aujourd'hui, il a suffisamment d'audience au Mali ici pour plaider la cause, n'est-ce pas, du retour de ces réfugiés-là. Là où on réclame 2 millions de dollars pour apporter aux réfugiés, n'est-ce pas, l'assistance dont ils ont besoin, je suis convaincu que l'État du Mali peut débloquer cette somme-là pour faire revenir ces réfugiés-là dans leurs villes, les villages, auprès de leurs frères, et qu'ils arrêtent de continuer à réclamer, n'est-ce pas, du secours. Il n'y a pas de danger au Mali, il n'y a que les souffrances que tous les Maliens partagent ici, qu'ils soient dans les grandes villes ou dans les hameaux. Il le sait autant que moi, les problèmes sont partout. Alors, pour une telle somme, je pense qu'il ne peut pas me dire que l'État du Mali peut refuser ou bien peut hésiter à débloquer une telle somme quand on sait que pour des groupes armés dans le nord du Mali, il est en train de débloquer peut-être 2 ou 3 fois plus que cette somme-là chaque mois. Je ne vois pas pourquoi il va refuser de le débloquer pour des réfugiés maliens qui n'ont commis aucun crime, si ce n'est de craindre pour leur sécurité. Et je termine pour lui dire que pour ce qui est de la Mauritanie, je ne te demande pas de donner peut-être ton point de vue là-dessus, mais tu me connais très bien, tu sais que je n'invente rien, je suis très sincère et très franc. Je suis originaire de Tombouctou, je suis originaire du Faguibine, je suis originaire de Léré, je suis originaire de la zone ouest de Tombouctou. Je sais ce que je dis. Quand je dis que des réfugiés de Mauritanie viennent commettre des forfaits sur les villages du Faguibine, sur les villages de Ténénkou, sur les villages du Massina, je sais ce que je dis. Si tu ne le sais pas, je te l'apprends. C'est une réalité, c'est des faits avérés et il n'y a aucune discussion à ce niveau.
Alors, nous tournons maintenant du côté d'Ousmane Famagan Konaté, qui est chercheur en droit public. Monsieur le juriste, cette situation des réfugiés maliens, on parle de 31 000 qui sont donc en situation d'insécurité alimentaire, elle interpelle bien entendu la société, disons la communauté internationale, mais est-ce qu'on peut également évoquer quand même la responsabilité de l'État malien, non?
Oui, on peut bel et bien évoquer la responsabilité de l'État malien, en ce sens... L'État malien devait quand même stabiliser l'État, éviter que la situation ne perdure, parce qu'on parle de 4 ans. On parle de 4 années, n'est-ce pas? La situation devait être stabilisée pour faciliter en fait, le retour de ces réfugiés qui sont dans des conditions déplorables. Mais si on essaye de voir un peu la situation préoccupante de ces réfugiés, on se rend compte que ce sont des situations humanitaires. Alors, en tant que situation humanitaire, en fait, il y a des partenaires économiques qui sont là, qui peuvent quand même, dans le domaine de l'humanitaire, œuvrer. Je parle un peu du comité de Croix-Rouge. Dans les propos de madame du HR et dans les propos du réfugié, je ne vois pas quel a été l'apport du Croix-Rouge dans cette situation humanitaire. Quand même, elle est censée... faciliter, prendre en compte ces actions. Donc l'État a bel et bien sa responsabilité. L'État doit œuvrer dans la stabilisation de l'État et faciliter le retour de ces réfugiés.
Alors nous nous rendons encore au Burkina Faso. Madame Mawa Parom, je rappelle que vous êtes la représentante adjointe du ICR au Burkina Faso. Nous allons un peu évoquer quand même le cas de retour. Et à combien peut-on estimer le nombre de réfugiés retournés au Mali? Et parmi ces réfugiés, on sait bien qu'il y a des femmes et des enfants. Alors, ceux-ci sont-ils pris en charge à leur retour? Est-ce que vous vous en souciez quand vous les aidez à regagner les bercailles?
Bon, les chiffres sont différents que ce soit ici ou au Mali, parce que je vais vous expliquer que certains réfugiés repartent de façon spontanée. Et en partant spontanément, nous, on n'a pas forcément les chiffres. Mais selon nos collègues du HCR au Mali, il y a 17 534 personnes qui sont rentrées à ce jour au Mali. Et ce chiffre comprend aussi bien ceux qui sont partis spontanément que ceux qui sont partis suite à un rapatriement facilité. Lorsque les réfugiés rentrent au Mali et qu'ils sont connus parce qu'ils partent avec des documents, comme j'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé du rapatriement, il y a un questionnaire qu'on remplit et on le signe. Et quand les rapatriés partent avec ce document qui est reconnu par notre agence et nos partenaires, ils reçoivent une assistance. Une assistance cash, ils reçoivent de l'argent par personne, par famille. Ils reçoivent aussi l'assistance communautaire, c'est-à-dire les centres de santé, les écoles, les points d'eau, les projets humanitaires et de développement qui sont dans les zones de retour.
Alors, nous allons donner la parole à Mohamed El Mokhtar, qui est, je le rappelle, réfugié malien au Burkina Faso. Alors, El Mokhtar, dites-nous, les retours, vous arrivez là-bas, non? Les retours au Bercail.
Comment vous dites au Bercail? Je n'ai pas compris la question.
Alors, les retours, ça vous préoccupe? Vous êtes pressé de rentrer au pays, non?
Je suis tellement pressé que on ne sait plus maintenant à qui on veut maintenant. Si c'est le gouvernement, si c'est les mouvements, si c'est plus. Parce qu'actuellement, ce qui fait que les gens rentrent inopinément comme ça, c'est parce que seulement ils ont l'amour du pays, ils ont la nostalgie du pays, ils veulent rentrer. Quelles que soient les conditions qui les attendent là-bas ou bien les conditions qu'ils rencontreront là-bas, ils préfèrent retourner. Mm-hmm. Ce n'est pas une histoire de mauvaise prise en charge au niveau du Burkina, ni une mauvaise protection, ni une mauvaise sécurité, non. C'est tout simplement pour aller participer activement à la reconstruction du pays, participer à tout ce qui se passe, la vie économique, la vie politique, etc. Mm-hmm. Donc, ils ne veulent pas échapper à tout ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne tardivement aussi. Et puis après, bon, voilà, on n'était pas là, on a fait ça, c'est tout ça après nous. Donc, ces aspects-là, ces aspects-là qui sont intéressants pour nous. C'est-à-dire être là-bas pour participer à la vie économique, politique, sociale du pays. Voilà.
En tant que réfugié, à quoi vous vous attendez de la part des autorités maliennes?
D'autres parlent de viabilisation des sites, etc. C'est vrai, c'est des conditions quand même qui sont nécessaires pour un retour, pour ceux qui ont bien sûr des sites. Mais il y a certains qui sont venus demain. Maintenant, je rappelle ici à Sidi Kagakadou que effectivement, c'est plutôt agréable. Maintenant, je reviens sur votre question encore concernant les conditions qui sont attendues au niveau du Mali. Le Mali peut très bien mettre toutes les conditions nécessaires pour les réfugiés, pour les retours. Et tout le monde le fait. Et on n'a pas besoin d'attendre la mise en œuvre d'un accord qui n'en finit pas derrière, des forums, des réunions, etc. etc. Et ça nous fatigue, les autres qui sont là. De faire rentrer immédiatement.
Cela est compris, il nous reste juste une quarantaine de minutes, Betty Agakado.
Une quarantaine de secondes.
Deux secondes, disons. Oui.
Juste pour dire au jeune frère Pecho que je suis vraiment très très content de l'entendre dire qu'il est pressé de rentrer au pays parce que nous l'attendons tous. Et je profite de l'occasion pour lui dire de faire un grand plaidoyer auprès de la communauté internationale et de l'État du Mali pour que les groupes armés arrêtent de marchander, n'est-ce pas, la situation des Maliens à l'extérieur du territoire. C'est eux qui retardent le processus, sinon les Maliens vous sont prêts à vous accueillir à bras ouverts.
C'est donc la fin de cette émission. Je rappelle que nos invités étaient Mme Mawa Paroms, représentante algérienne du ICR au Burkina Faso. Nous lui disons merci. Mohamed El Mokhtar, réfugié malien au Burkina Faso, qui était également en ligne. Merci à lui. Zbete Agagado, société civile, était présent ici dans ce studio. De même que Ousmane Famagan Kounaté, chercheur en droit public, doctorat à l'Institut de recherche et de formation. Présentation Seydou Fomba, réalisation Ayoubasso. Mise en onde Peting Diara. De l'autre côté, nous avons le jeune Lasso qui est donc à la régie vidéo. On se retrouve demain.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Haloud Moundi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.